Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Discutons de l'innovation. Nous sommes 6 amis étudiants à l'UTC et nous allons vous présenter 4 émissions autour de l'innovation. Nous avons la chance d'enregistrer ces émissions dans un studio de radio. Il s'agit de la radio Graphite que l'on peut écouter sur le 94.9 FM. Ces émissions sont réalisées dans le cadre de sciences et débats publics. Pour des raisons sanitaires, eh bien nous serons que 3 étudiants pour chacun d'entre eux et nous effectuerons un roulement afin que tout le monde puisse participer. Aujourd'hui, il y a
Andrea
et François
et moi-même, Clémentine. Alors Andrea, est-ce que tu pourrais nous dire de quoi est-ce que nous allons discuter aujourd'hui ?
Alors du coup, aujourd'hui, on a décidé de se pencher dans les innovations qui résident dans le sport et les technologies qui tournent autour de ça. Donc on va d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'elles peuvent apporter ou modifier dans le sport. Alors forcément, une blessure, ça peut anéantir une carrière et du coup, c'est pour ces raisons-là que des chercheurs développent des matériaux innovants qui permettront, soit au casque, soit aux chaussures ou à bien d'autres matériels, de mieux les prévenir. Alors du coup, ça se sépare en deux parties. Elles peuvent améliorer un équipement pour battre des records ou alors aussi se concentrer plus sur la sécurité des athlètes. Donc tout d'abord, pour améliorer l'équipement pour battre des records, Donc, ça permet aux athlètes de dépasser leurs limites, donc qui paraissent parfois infranchissables, qui paraissaient infranchissables il y a quelques années. Donc, par exemple, sur les courts de tennis, par exemple, la différence entre deux joueurs peut se jouer sur seulement l'endurance. Alors, par conséquent, le matériel comme les raquettes, le cordage, les balles ou les chaussures doivent résister tout d'abord durant toute la durée du match, d'un tournoi. Et ils doivent également atténuer et soulager la fatigue des joueurs, que ce soit pour l'amortissement des vibrations, l'adhérence, etc. Et du coup, il en est de même pour le vélo de route. Donc, c'est un sport qui est suivi et pratiqué par des millions de personnes à travers le monde, avec le Tour de France notamment. Là, ça va pas. Et l'équipement complet des cyclistes de notre époque n'a rien à voir avec celui des cyclistes du siècle dernier. En effet, il y a l'invention du dérailleur dans les années 30, du pneu haute pression, du casque expansé, du guidon triathlète, de la pédale automatique, de la roue aérodynamique, du cadre carbone monobloc, etc. Et donc, ce sont des nombreuses innovations qui ont fait passer en plus d'un siècle la vitesse moyenne du vainqueur de 25 à 40 km/h. Alors du coup, je pense que ces chiffres peuvent en effet prouver l'efficacité de ces innovations. Vous en pensez quoi ?
Bah oui, c'est sûr. Enfin, on voit bien que du coup, c'est quand même considérable. Passer de 25 à 40 km/h en moyenne, c'est une différence qui est significative. Et donc, ça montre que, bien que je pense que peut-être le niveau des athlètes s'est un peu amélioré, globalement ici, on voit bien que c'est ces innovations qui sont à l'origine de ça.
Puis ouais. On a presque doublé la performance, parce qu'il y a beaucoup de sports où certes on a grappillé quelques secondes, mais là, doubler presque la vitesse, c'est énorme.
Franchement, Moi je le vois comme l'athlète c'est toujours le même, mais ce qui a permis d'augmenter ce record, c'est les innovations sur lesquelles ils sont basés.
Après, je pense pas forcément que l'athlète soit forcément toujours le même, parce qu'il doit y avoir vraiment une grosse différence. Dans les années 30, tu vois, il y a quand même eu une évolution des entraînements et tout, mais je pense que c'est vraiment explicable grâce aux technologies. Donc la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que ce serait pas un petit peu problématique de booster à ce point un sport, d'ailleurs quel qu'il soit ?
Alors oui, en soi c'est problématique parce que, ironie du sort, certaines innovations matérielles ont été tellement performantes qu'elles ont même été interdites d'utilisation. Donc bien connu l'exemple de l'histoire des combinaisons en polyuréthane qui a fait le tour du monde et qui a été introduite en natation en 2008. Donc, cette combinaison reproduit la peau d'animaux aquatiques tels que celle du requin, par exemple, afin de favoriser la glisse subaquatique. Et c'est grâce ou à cause de cette combinaison que plus d'une centaine de records ont été battus pendant les Jeux Olympiques de Pékin. Ça, c'est assez incroyable. Et cette combinaison, du coup, a été interdite dans les compétitions pour des raisons évidentes.
Ouais, là, c'est sûr que... Enfin, moi, quand je vois ça, je me dis qu'il faut limiter... justement ces innovations, parce que quand on regarde notamment dans d'autres sports aussi où ça arrivait, je pense justement au cyclisme où maintenant il y a un comité qui se réunit chaque année pour savoir quelles vont être les limites à ne pas franchir au niveau mécanique, de même pour beaucoup de sports mécaniques, notamment la Formule 1 ou autre. Et du coup, je sais pas ce que t'en penses Clémentine, mais je trouve quand même que c'est plutôt bien de limiter...
Oui, tout à fait. Enfin, on se demande, est-ce qu'on a véritablement besoin de reproduire toute la peau des animaux aquatiques, etc., là, pour battre tous ces records ? Finalement, est-ce que ce serait véritablement battre des records ? Personnellement, je ne pense pas, parce que c'est juste qu'on a mis un matériel en plus aux mêmes athlètes qui faisaient exactement les mêmes performances. Donc, Enfin, voilà, pour moi, c'est un petit peu bizarre de se dire, ben, on va remplacer tout l'équipement, c'est exactement les mêmes personnes. Si elle ne l'avait pas, elle ferait à peu près les mêmes performances. Mais là, on va se dire, on va battre des records juste en mettant une nouvelle combinaison. Enfin, voilà.
Je pense que ça relève plus des compétences de l'athlète. Ça lui rajoute des trucs qu'il n'a pas de base et qui ne lui permettraient pas de battre ses records sans cette innovation.
Bah, du coup, est-ce que c'est considéré comme battre un record véritablement ? On peut se questionner là-dessus, je pense. Ouais.
Bah, ça leur permet de surperformer, en tout cas, on le voit bien sur les Jeux Olympiques de Pékin. Mais parfois, certaines technologies peuvent servir aussi à autre chose que d'améliorer les performances d'un athlète, non ?
Bah, oui, du coup, c'est ce que j'avais dit au début, c'est que c'était pour plus de sécurité.
Ah ouais ? Comme quoi, du coup ?
Comme par exemple, dans le VTT, donc, dans certaines disciplines sportives, il est primordial de garantir la sécurité des athlètes. Donc, par exemple, dans les sports de vitesse comme la luge, le roller skating ou encore le cyclisme et le VTT de descente, les athlètes font face à des réels dangers de blessures et même de mort, du coup. Et donc, le casque est devenu indispensable pour protéger la tête du participant. Donc, l'enjeu réside par conséquent dans la conception des casques performants en termes de sécurité, mais qui ne gênent pas le confort de l'athlète. Donc, ce sont nombreux paramètres qui doivent entrer en compte lorsqu'on crée ces nouvelles innovations, comme la robustesse, la légèreté, l'aérodynamisme, etc.
Ouais, du coup, là, c'est... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Clémentine, mais c'est quand même plutôt positif à ce niveau-là.
Ah bah, bien évidemment, hein. Si on peut permettre de protéger, d'avoir une sécurité en plus, oui, là, on peut parler d'aspect positif. C'est absolument pas la même problématique et le même enjeu que ce qu'on avait pu voir avec la plongée et la
comme
nage,
le casque.
Par exemple.
Le oui, casque de vélo, ça devient aujourd'hui primordial.
On n'imaginerait pas envoyer ses enfants apprendre à faire du vélo sans casque, par
voilà,
exemple.
C'est ça.
Bah, puis, plus généralement, quand même, je sais pas, personnellement, je regarde le Tour de France, je sais pas si vous regardez également, mais on peut le voir, il y a une époque où il y avait un nombre de décès au bord de la route qui était énorme. S'il y avait une chute à vélo, quand on est en haute montagne, etc., on peut avoir des blessures très graves, alors qu'aujourd'hui, grâce à ces équipements de protection, il y a quand même, ça réduit la fréquence de ces accidents déjà, et en plus, la gravité de ces accidents. Même un peu, c'est un peu la même chose dans tous les sports où il y a un risque. Hein. Enfin, même la Formule 1, hein, il y a eu beaucoup de problèmes tout de même dans l'histoire de la Formule 1. Et même si encore aujourd'hui c'est imparfait, il y a tout de même, je pense, il y en a moins qu'avant.
Oui, non, je suis d'accord. La sécurité sur ce point-là, les innovations n'ont que des bienfaits, j'aurais tendance à dire.
Si c'est pour l'aspect sécuritaire, oui. Mm-hmm. Là, pour le coup...
Après, par contre, on avait vu aussi qu'il y a des innovations dans l'arbitrage et qui sont assez controversées, non, il me semble.
Ouais. Alors, du coup, là, on va parler vraiment de toutes ces technologies qui touchent l'arbitrage parce que toutes ces technologies, elles ont permis énormément d'avancer dans le sport. Mais l'arbitrage, franchement, ça a permis de perturber et de bouleverser beaucoup de choses. Tout simplement parce qu'on sait que nous, les hommes, on a des limites et que parfois, mais d'ailleurs souvent, les machines peuvent être plus performantes. Donc on peut prendre comme exemple une course d'aviron, tout simplement parce que lorsque les coques vont franchir la ligne d'arrivée, si elles franchissent toutes la ligne d'arrivée à la même seconde, nous, en tant qu'humains, on ne pourra pas voir. On ne pourra pas voir qui est passé en premier, etc. Et c'est pour ça qu'on va utiliser notamment des caméras. En fait, c'est vraiment pour prolonger les capacités de l'homme et pour voir ce qu'il n'est pas capable de voir. Et on peut aussi passer sur un autre exemple, donc le football. Donc là, on va utiliser, par exemple, la méthode d'arbitrage par image, hein, puisque auparavant, c'était absolument pas l'outil d'un arbitre. Et aujourd'hui, il va pouvoir voir un petit peu tout ce qui s'est passé au cours d'un match. Donc il s'agit de la VAR, donc la Video Assistant Referees. Et aujourd'hui, elle est présente dans toutes les grandes compétitions et je pense pas qu'on puisse imaginer maintenant le foot sans la VAR. D'ailleurs, je crois que tu avais une petite anecdote pour nous.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le foot, il y a eu de nombreuses erreurs d'arbitrage dans l'histoire du sport qui ont fait que ça a levé ce débat de est-ce que la VAR va être prolifique ou non. Enfin, je repense à des matchs comme France-Allemagne 1982 ou même Marseille-Benfica en demi-finale de Ligue des Champions. C'est des choses qui se sont passées, où il y a eu des buts qui ont été validés, par exemple, ou des fautes qui n'ont pas été sifflées. Et ça, c'était un peu dommage, dans le sens où s'il y avait eu la VAR à ce moment-là, ça aurait pu être revu. Et donc, ça a permis d'améliorer ça. Et pourtant, on voit qu'il y a des gens qui sont sceptiques. Enfin, moi, pour ma part, j'ai pu effectuer un petit sondage dans mon club de foot et demander un peu aux gens s'ils étaient pour ou contre déjà la technologie dans le foot. Déjà, on avait à peu près 103 personnes qui ont répondu, donc il y en avait quand même 80 qui étaient pour, mais 23 qui étaient contre. Mais pour ce qui s'agit de la VAR, il y a eu tout de même plus de gens qui étaient contre quand même. Il y avait plus de 20 personnes qui étaient contre et à peine 75 qui étaient pour. Et ça montre vraiment qu'il y a toujours des débats et que les gens ne sont pas unanimes sur le fait de cette utilisation du vidéo-arbitrage.
Et comment on pourrait l'expliquer un peu le fait qu'ils soient contre ?
Moi, je pense que, en tant que personne qui aime le foot, je dirais que ça peut être le côté un peu de ralentir le jeu. Ça peut casser la fluidité parce que parfois, évidemment, quand l'image va être revue, une image, ça s'interprète. C'est toujours l'arbitre qui va définir si il y a faute ou non. Et du coup, quand il va aller voir ces images-là, il va être un petit peu dans un sens de moi, j'avais l'impression à vitesse réelle qu'il n'y avait pas faute. Il est vrai que le ralenti me montre peut-être qu'il y a une faute potentielle, mais ça prend du temps parce qu'il faut délibérer de ça. Il est quand même, ça peut parfois être ça peut avoir des conséquences, sa décision. Donc, il y a ce côté-là d'être le plus juste possible.
Et de remettre en cause en fait, le rôle de l'arbitre.
Oui, c'est ça. Concrètement, parfois, l'arbitre est appelé quand il a fait une erreur manifeste, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens dans un van ou dans un centre à Paris qui vont l'appeler pour lui dire qu'il a fait une erreur potentielle. Ce n'est pas lui, de base, qui va aller visionner tout seul les images. Donc, ils vont l'appeler et lui dire écoutez, monsieur l'arbitre, il faut que vous y alliez voir, on pense qu'il y a une erreur. Et à ce moment-là, lui fera le choix ou non de revenir sur sa décision. Mais ça, quand même, ça peut être compliqué à définir, quoi, de se dire oui, vous avez fait une erreur.
Mais du coup, la VAR qui est un peu controversée, est-ce que ça ne viendrait pas un peu de la mauvaise foi parfois des joueurs de foot ? C'est-à-dire, quand la VAR indique une faute pour l'équipe qu'on supporte, oui, la VAR, ça ne sert à rien. Et quand on indique une faute pour l'équipe contre laquelle on joue, oui, la VAR, là, ça sert. Parce que j'ai entendu que ça avait ça relevait un peu de mauvaise foi aussi.
C'est vrai que parfois, il y a ce petit côté un peu de supporter. Mais bon, je pense quand même que quand on veut atteindre des niveaux d'équité dans le sport, ça peut aider. En tout cas, moi, je suis plutôt pour.
Ouais, mais là, on a vu, par exemple, dans les sondages, qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient contre. Et là, on n'a pas parlé de match ni rien, tu vois.
C'était juste point de vue pragmatique.
Ouais, voilà.
Ouais.
Du coup, si on continue un peu dans le domaine du football, on peut aussi parler du système du goal line technology. Donc en fait, on va mettre en place au niveau des buts ces technologies pour voir si la ligne est franchie par le ballon ou non, parce que ça a parfois posé problème pour certains matchs. Et d'ailleurs, c'est un système qui est aussi réutilisé un petit peu dans le tennis avec la hole line. Donc en fait, il s'agit de savoir si la balle est véritablement arrivée dans le terrain ou non. Et tout ça, ça se base sur des calculs de trajectoire de la balle en fonction de son point de départ. Du coup, là, en fait, on a vu plein d'exemples de technologies qui pourraient nous être utiles pendant des matchs, pendant, on va dire, l'action du sport. Mais pendant les entraînements, comment ça se passe ? Est-ce qu'elles sont aussi omniprésentes ? Est-ce qu'il n'y en a pas du tout même ? Peut-être tu pourrais nous en parler un peu plus.
Il y en a. Alors, du coup, dans les pôles sportifs nationaux ou dans les plus grands clubs sportifs, ils sont tous dotés des meilleurs coachs, mais également, du coup, des meilleures technologies en matière de soins et d'entraînement. Donc aujourd'hui, c'est grâce à la collecte et l'analyse des données que la technologie est désormais capable de prévenir les potentielles blessures des athlètes. Et surtout, c'est une technologie répandue, puisque nous avons deux exemples ici de boîtes d'analyse statistique, des données que François et Clémentine allons nous présenter.
Oui, tout à fait. Donc déjà, on va pouvoir parler de McLeod, qui est une start-up française. Et en fait, cette start-up, elle conçoit des boîtiers qui vont être capables de mesurer les paramètres physiques des joueurs. Donc par exemple, la position, l'accélération tout au long de l'entraînement, la vitesse moyenne, etc. Mais également les données physiologiques, donc le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, etc. Et avant de les transmettre à des logiciels d'analyse. Et donc, ces entraînements-là, ils sont optimisés et les données qui sont retranscrites en temps réel aux entraîneurs vont permettre de savoir si un joueur est en train de se fatiguer ou s'il peut encore s'entraîner à fond, épuisé dans ses ressources. Enfin, ça permet vraiment d'optimiser les entraînements pour aller à la limite du possible, encore une fois.
Bah, du coup, je pense qu'on peut aussi parler de la société australienne. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Catapult.
Personnellement, non.
Non plus.
Bah, du coup, en fait, c'est une société qui a mis en fait toute une analyse qui va permettre de mesurer à la fois la préparation physique, mais aussi le risque de blessure des joueurs. Donc, on rejoint un peu ce que tu nous disais, Andrea. Parce qu'en fait, on va utiliser enfin, cette technique, elle est utilisée quand même par pas mal d'équipes. Hein. On peut notamment citer la fameuse équipe du Bayern Munich. Elle est très intéressante parce qu'il s'agit d'une technologie qui est portable, c'est-à-dire que en fait, elle va permettre à des entraîneurs de les utiliser pendant les entraînements où qu'ils soient. Et en fait, en quelques minutes, on va pouvoir envoyer toutes ces données et ça va nous permettre de connaître le niveau de fatigue d'un joueur, mais aussi s'il risque de se blesser. Donc on se rend compte en fait, qu'on peut éviter la fin d'une carrière grâce à ça. Et c'est une technologie qui est très complexe, hein. Il y a beaucoup d'outils, donc comme un GPS ou encore un accéléromètre donc pour mesurer les arrêts et les démarrages, ou un magnétomètre, un gyroscope, pour voir un peu comment notre corps se tord, bouge, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très complet. Et aujourd'hui, on a aussi d'autres outils hein, qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus. À la fois, on va collecter, on va analyser des chiffres, des statistiques, et notamment, on va pouvoir étudier des matchs par partie, par période, et analyser les gestes et les performances de tous ces joueurs, quoi. Du coup, je voulais savoir un peu ce que vous pensiez de tout ça, et puis, de toutes ces techniques, quoi.
Moi, je pense qu'on a tendance à voir, le sportif à travers des chiffres. Est-ce que ce serait pas un peu trop? Parce que, il n'y a plus, le rapport au corps de comment on se sent face à un entraînement. Parce que normalement, le but d'un athlète, c'est de connaître son corps. C'est de savoir, c'est de connaître ses propres limites soi-même. C'est pas lire un écran et dire « je peux aller plus loin ». Si tu sens que ton corps n'est pas capable d'aller plus loin, c'est pas parce que les chiffres te le disent ici que, tu vois.
Après, je pense que le rôle de l'athlète, c'est vraiment de se surpasser. C'est d'aller toujours un peu plus loin. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, l'athlète, il sert un peu à rien, on va dire. Tu vois, c'est vraiment... c'est un peu devenu une machine dans le sens où on les a entraînés, ils sont performants. Et maintenant, en fait, on va juste faire des analyses sur eux. On va voir que des chiffres à travers ça. Et le problème, c'est qu'on risque après de perdre toute cette idée de la performance individuelle du sportif, quoi. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec ça, François, mais...
Après, je pense que ça dépend du sport, parce qu'on a toujours un peu plus ou moins vu le sportif via des statistiques. Mais c'est vrai que quand on voit, notamment là, dans... je reviens encore une fois sur le football, hein, désolé, mais, sur les sportifs de haut niveau aujourd'hui, les footballeurs, on parle beaucoup de statistiques. On va dire qu'un joueur est peut-être moins bon parce qu'il a moins couru sur un match, il a fait moins de sprints, sur des choses comme ça, alors qu'on en oublie un peu le côté naturel de ce côté-là. Et un peu le côté où le sportif, avant tout, il sait ce qu'il fait et il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire écoute, sur ce match, de la 75e à la fin du match, tu n'as pas assez couru ou alors tu sprintes pas assez. Je pense qu'il faut laisser un petit peu, un peu plus de liberté parfois aux sportifs.
À l'athlète. Ouais,
à l'athlète.
Ok. Du coup, je pense que tu avais une petite anecdote.
J'ai une petite anecdote, du coup. Alors, c'est assez surprenant, mais du coup, au Japon, l'équipe nationale de volleyball s'entraîne désormais contre des robots. Alors, leurs adversaires robotisés sont programmés pour répondre notamment au smash des joueurs ou à toutes sortes de contres, de manière à augmenter la difficulté des matchs d'entraînement. Donc là, on a un peu... Moi, je trouve que c'est poussé parce que du coup, on en revient à utiliser des techniques pour...
Ouais, pour que même à l'entraînement, ce soit même plus naturel, en fait.
Ouais, voilà. C'est plus... En fait, et puis, il y a une sorte de... les Japonais, là, on se dit, les Japonais, ils vont être beaucoup plus forts que les Français parce qu'ils sont entraînés contre des robots qui sont prêts à contrer tout.
Ouais,
c'est sûr.
Là, j'ai l'impression que ça se rapproche un peu des joueurs d'échecs, par exemple, qui s'entraînent contre des machines ou des trucs comme ça, tu sais, toujours à battre plus loin, plus loin. Et à la limite, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs ou pas à la fin? Enfin, je sais pas si vous...
Je sais pas. Je pense que Après, il faut faire un petit peu au cas par cas.
Ouais.
Parce que moi, par exemple, j'ai recueilli le témoignage d'un ami à moi qui est donc gardien dans mon club.
Joueur de foot.
Ouais, joueur de foot qui est gardien dans mon club, c'est par hasard. Mais... Et en fait, il m'a dit qu'il y a des machines aujourd'hui, notamment, qui envoient des ballons à une certaine vitesse qu'on choisit, dans l'angle qu'on choisit, et qui vont vraiment envoyer des ballons, comme des tirs qui sont quasiment parfaits. Et du coup, lui, il me dit que, bah, en s'entraînant tous les jours avec des tirs quasiment parfaits, c'est mieux qu'avec quelqu'un qui fait des tirs qui va beaucoup plus rater. Ça permet d'optimiser, encore une fois, la fréquence et la perfection à la limite, on pourrait dire.
Mais tu perds pas un aspect du sport quand même.
Mm-hmm. Bah,
parce que
ouais.
Le sport, c'est quoi? C'est pas, tu vas pas jouer contre un robot après, et il faut quand même que... Enfin, je sais pas si ça lui plaît autant de jouer contre un robot que de jouer contre un vrai joueur, quoi. Tu vois?
Ouais, c'est sûr, mais après, ça permet de... Je pense que pour beaucoup, le sport, c'est une recherche de performance avant tout, et c'est vrai que quand on joue en travail...
Pas certaine, trop. Ça,
quand on joue entre amis, ouais, c'est sûr. Mais quand tu joues entre amis, par exemple, tu vas pas forcément chercher à faire des performances de fou. Mais quand tu commences à être dans un club semi-pro, à essayer d'en faire ton métier, ça, c'est quand même des outils, je pense, qui peuvent t'aider.
Qui poussent plus loin.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. Mais du coup, ce serait pas la première idée de recherche. Enfin, moi, je pense que la première fois que je fais un sport, je vais pas me dire, vas-y, je vais battre un record, quoi.
Mais parce que t'es amateur.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Quand t'en fais, je pense que quand t'en fais ton métier après, ouais, c'est là que ça
peut
rentrer.
Tu peux rechercher une performance, mais il faut toujours que t'aies cet aspect fun, on va dire, du sport, parce que sinon, tu vas pas tenir, hein, vu les cadences qu'il faut tenir. Franchement,
mais ils tiennent pas.
ils
prennent leur retraite à 45 ans, ils tiennent pas.
Ouais, c'est que c'est quand même, ouais, c'est sûr que...
Mais ça dépend des sports, hein, parce que 45 ans, ça me semble un peu tard pour certains sports. Hein.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai. On est plus sur 30, 35 ans en foot, mais après les autres sports, je sais pas.
Ok. Bah, du coup, tu pourrais nous parler de ce témoignage que tu avais ?
Bah, ouais, non, bah, du coup, c'est juste ça. C'est. Enfin, toi, tu parlais d'en devenir à former des machines. Moi, je pense à ce niveau-là que surtout, il faut rester vigilant et s'éloigner des dérives. Enfin, on peut voir avec l'évolution rapide de l'assistance technologique, hein, comme on vient de le dire. Bah, les athlètes qui ont ces technologies-là, ils sont quand même meilleurs au niveau de leur performance. Et du coup, ça va susciter, bien évidemment, des sujets qui vont être liés plutôt à l'éthique, je pense. Enfin, on voit avec notamment les coachs sur écran, l'intelligence artificielle, ça pourrait peut-être faire disparaître les humains du sport. Justement, j'en parlais avec ce témoignage, tu vois, typiquement, le mec qui allait faire des tirs et qui allait entraîner mon pote gardien, aujourd'hui, c'est une machine. Donc, ça remplace un humain de ce côté-là. Et donc, pour moi, ça, c'est le premier risque. Et au-delà de ça, bah, t'as aussi le côté où vont toutes ces données. Parce qu'une fois qu'on a récupéré toutes les données physiques et physiologiques, où est-ce qu'elles vont aller ? Est-ce qu'on va les supprimer directement ? Ou alors elles pourraient peut-être aller dans des sociétés qui vont l'analyser à des buts pas forcément super, quoi. Donc c'est aussi un risque pour les sportifs amateurs comme les sportifs de haut niveau. Enfin, par exemple, on avait parlé, il me semble, mais quand on voit les montres connectées, typiquement, même les sportifs amateurs en ont. Mm-hmm. Et pourtant, ces données, on peut encore une fois se demander où elles vont. Et... Bah pour finir là-dessus, je pense qu'il y a aussi une question du transhumanisme. Donc avec l'augmentation c'est l'augmentation de nos capacités physiques grâce à la technologie. Et il me semble qu'on avait vu un truc sur Tiger Woods qui s'est lui fait opérer afin d'avoir une meilleure vision. Donc Tiger Woods, le golfeur, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais du coup, ouais, il s'est fait opérer des yeux pour améliorer sa vision. Et donc, on se demande, est-ce qu'il recherche à devenir un surhomme ? Enfin, ça Mmh. Oui, il y a des questions éthiques, ça c'est sûr.
Et surtout, est-ce que sa performance est toujours justifiée si tu modifies, si petit à petit tu commences à modifier tout ton corps, c'est pas.
Ouais, c'est sûr. Ouais, non, ça c'est. Ouais, ça lève.
Ça en revient comme au dopage en fait.
Ouais, ouais, c'est vrai. Bah c'est toujours ça, c'est fixer les limites en fait. Quelles vont être les limites à ne pas franchir pour juste chercher la performance
Mais ça déstabilise la compétition.
Que si t'en as un qui commence à dire vas-y, je vais modifier ma vision, l'autre il va modifier, je sais pas ce qu'il va modifier, hein, le prochain, mais je pense que petit à petit ça peut faire un engrenage, et si t'as pas des législations qui sont mises en place rapidement, tu peux vraiment te retrouver avec un gros problème à la fin, je pense. Et ça modifierait tout l'état du sport, tu vois, parce que normalement c'est grâce à ton entraînement que tu peux performer et tout, et aujourd'hui j'ai l'impression que
qui a le plus de sous
pour voilà, se faire... Voilà, exactement. Qui a le plus d'argent, qui va avoir le plus de technologie derrière pour pouvoir performer et... Ouais, ouais, voilà. C'est plus... C'est pas une question de... Du sportif en lui-même et de sa volonté. Et de
ouais, je suis d'accord.
Enfin bon. En tout cas, vous êtes toujours sur la radio Graphite, sur le 94.9 FM ou sur graphite.net. Donc aujourd'hui, eh bien, on a bien vu que toutes ces technologies, elles permettaient de repousser les limites des hommes, la volonté de toujours aller plus loin, plus haut, plus vite. On se demande d'ailleurs parfois à quel prix, pour que les performances soient de plus en plus impressionnantes. Donc on peut se poser certaines questions hein, avec tout ça, parce que certes, on sait que l'idée du sport, c'est de se surpasser, d'aller au-delà de ses limites. Mais est-ce qu'avec toutes ces technologies qui sont mises en place dans les entraînements et avant, après et pendant, est-ce qu'on peut véritablement parler d'une performance qui appartient à l'athlète ? Ou alors, eh bien, à quel moment on va pouvoir parler d'une dénaturation du sport, là, avec, bah, avec tout ce qu'on a entendu Enfin, voilà, je pense qu'on peut, on peut commencer à débattre avec ça.
Tout à fait. Alors, moi, de mon côté, je vois, enfin, je le vois comme ça, j'aurais tendance à dire que plus ça va, plus les innovations prennent de la place dans le sport et moins l'athlète, moins les performances physiques de l'athlète lui-même ne prennent de la place. Alors du coup, moi je le vois un peu comme une dénaturation du sport petit à petit avec une technologie qui prend de plus en plus de place dans le sport lui-même. Ouais, ouais.
Une course à l'innovation en gros.
Ouais, c'est ça.
Ouais, bah ouais, et puis pour moi, vraiment, ce qui va un petit peu me gêner, personnellement, c'est que ça peut renforcer les inégalités au sein même d'un sport. Justement, on a parlé du football, quand on a un club amateur, par exemple, on n'a pas les mêmes moyens technologiques qu'un club professionnel, et j'aurais tendance à dire que quand on a 11 athlètes face à 11 athlètes sur le terrain, on a peut-être ce côté de se dire que les amateurs peuvent gagner. Alors que je pense qu'à contrario, s'ils ont trop accès à une technologie qui va leur permettre d'être beaucoup mieux entraînés, d'être beaucoup mieux reposés entre deux matchs, etc., ça va encore plus creuser ces inégalités-là. Et donc, ça va un petit peu ruiner ce côté méritocratie du sport. Et c'est ça qui me gêne un petit peu.
Ouais, j'imagine bien. Puis surtout, après, on peut se dire... parce que je sais qu'il y a certaines choses, certaines technologies qui ont été vraiment interdites, comme on avait vu avec les combinaisons et tout. Et ça ne m'étonnerait pas que dans plusieurs années, il y en ait de plus en plus qui soient interdites. Parce que le fait qu'il y ait certains sports qui soient vraiment énormément, enfin, qui aient vraiment énormément d'argent et qui vont pouvoir mettre énormément de technologies en place et tout, on ne pourrait pas se demander si. Ce serait pas intéressant peut-être de mettre des quotas, d'un point de vue du budget. C'est bien, vous avez beaucoup d'argent, etc. Mais peut-être que quelque chose qui serait intéressant, c'est de mettre vraiment une limite et de se dire, vous avez le droit de prendre tant pour autant de technologies, après vous débrouillez, tu vois. Mm-hmm. Et ça permettrait, les clubs qui n'ont pas d'argent, de toute façon, ils n'en auront pas, hein, qu'on se le dise. Mais au moins, on met une limite aux autres. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Pour éviter de pousser trop loin.
C'est ça un peu parce que. Oui, au fur et à mesure, on sait que l'homme a réussi à... Enfin, au niveau des performances, oui, l'homme réussit d'année en année à s'améliorer, etc. Mais au bout d'un moment, on commence à stagner. Enfin, par exemple, on peut prendre la course du 100 mètres. On sait qu'entre 1968 et 1988, le record du monde du 100 mètres a vraiment énormément évolué chez les femmes, puisqu'on est passé de 11 secondes 8 à 10 secondes 49. Et ce record, ce qui est vraiment extrêmement drôle, c'est que depuis 1988, il n'a pas été battu. Et en fait, on se demande, s'il n'a pas été battu depuis 1988, c'est que chez les hommes, je crois, il me semble que c'est 2012, qu'il n'a pas été battu depuis 2012. On se demande, est-ce qu'on a vraiment besoin de battre ce record ou pas pour que les gens continuent à venir, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment cette question, je pense, qui se pose. Je ne sais pas si vous pouvez...
Moi, je le voyais comme des technologies. Elles permettent aussi de rendre le sport plus attractif, plus sensationnel, surtout dans le foot. Ils poussent pas... Je reviens au foot.
Nickel.
Yes. Le fait de pousser les athlètes encore plus loin avec des technologies lors de l'entraînement, lors de la récupération et tout... ça permet d'avoir des performances impressionnantes. Et en tant que supporter, j'imagine que ça plaît. Par exemple, on voit Mbappé qui a Parle-nous d'Mbappé, parle-nous d'Mbappé.
Non, mais c'est sûr que oui, ça permet de jouer plus souvent. On le voit parce qu'avant, il faut savoir que quand il y avait plus d'un match par semaine, c'était compliqué. Les joueurs avaient du mal à enchaîner. Aujourd'hui, avec toutes ces techniques, technologies de récupération, les joueurs, on le voit, s'en plaignent tout de même. Hein, mais il y a tout de même des matchs tous les 2-3 jours. Et je pense que ça, c'est plus attractif pour les spectateurs. Parce que forcément, quelqu'un qui va voir plus de matchs va être peut-être plus satisfait que quelqu'un qui voit un match par semaine. Puis ça génère encore une fois plus d'argent. On en revient à l'argent.
Je ne suis pas tellement d'accord avec cette idée. Tu peux suivre un groupe et le voir que... Peut-être favoriser la qualité plutôt que la quantité, non ?
J'aurais tendance à dire que tu savoures plus le moment où tu le revois plutôt que quand tu te sens gavé, en fait. Enfin, quand il y a trop de matchs les uns derrière les autres, t'as...
Après, ça dépend aussi si t'es vraiment un vrai, vrai fan.
Il y a jamais trop de football.
Jamais. Par contre, je veux juste revenir pour le record du monde masculin sur du 100 mètres. T'es sûr que c'est pas 2009
Il me semble que c'était... Enfin, il y a record du monde et record olympique.
Ah,
il
me
semble
que 2012, c'est à Londres.
C'est olympique. Et 2009, c'est record du monde.
Ouais, c'est ça. Okay.
Mais après, je pense que le public viendra combattre des records ou non. Tu vois, enfin, c'est pas parce que le record du 100 mètres, il n'a pas été battu depuis des années qu'il n'y a personne aujourd'hui. C'est quand même toujours l'épreuve phare de l'athlétisme. Je pense que ça, c'est pas trop justifiable, tu vois. Tu peux pas expliquer que s'il y a plus de performance, si on bat plus des records, les gens vont plus venir et il y a plus d'attrait. On peut pas battre des records du monde tous les jours, c'est pas possible.
Non, c'est vrai. Je pense qu'il y a un moment où l'humain va, on plafonne à un moment. On peut pas aller trop loin comme le 100 mètres, il sera pas fait en une seconde. Il arrive un moment où les capacités humaines mettent un frein en fait au record du monde. Mais je pense que le fait d'avoir des performances aussi impressionnantes sont le fruit de ces technologies qui sont tout le temps présentes pour ces athlètes. Donc, en prenant la course du 100 mètres, la raison pour laquelle les coureurs ne baissent pas les records sont toujours... s'égalise un peu toujours avec le record du monde. C'est grâce à cette technologie et c'est toujours cet espoir pour le supporter de voir son idole ou son athlète préféré battre le record et se dire que peut-être un jour, le record va être encore battu et que c'est pour ça que ça continue à générer des supporters.
Tu voudrais dire qu'en fait, les supporters reviennent dans l'espérance, dans la possibilité qu'un record puisse être battu, c'est ça ?
De participer à un moment historique.
Ouais.
Ouais, après, je pense que pour le 100 mètres, c'est peut-être un petit peu particulier parce qu'on a quand même eu la chance de voir Usain Bolt qui a quand même explosé les records. Donc, est-ce qu'un athlète pourra le battre un jour ? À part peut-être en se faisant aider par une super technologie, peut-être pas. Mais je pense que c'est... si les gens continuent de venir voir, c'est ça, c'est dans l'espérance de voir ces records battus. Et pour moi, c'est quelque chose de bien que les gens continuent de venir voir, malgré le fait que les records ne soient pas battus. Mais ça ne montre pas pour autant... qu'ils viennent pas pour voir des records être battus, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Mais toutes ces innovations, au final, ça coûte cher. C'est quelque chose qui relève du privilège, parce que pas tout le monde a accès à ça. Et comme on le disait avant, moi je le vois comme ça déstabilise la compétition et il y en a qui...
Ça déséquilibre, tu veux dire?
Oui,
okay, ouais.
Excuse-moi, ça déséquilibre la compétition. Et j'aurais tendance à dire qu'il y en a qui sont favorisés face à d'autres. Donc les clubs qui ont beaucoup de sous peuvent se permettre d'avoir des technologies, des chambres froides, des tapis de course, des tout ça. Alors qu'il y en a qui ne l'ont pas. Et comme par exemple avec l'équipe de volleyball japonaise qui peut s'entraîner contre des robots. Peut-être qu'une autre équipe ne peut pas s'entraîner contre des robots. Et du coup, en fait, ça fait... une inégalité en fait tout au long du sport.
Exactement.
Et après le fait de qu'ils s'affrontent après en compétition, c'est pas équitable. Moi je le vois comme ça aussi.
Ouais, mais est-ce que ça rajouterait pas justement encore plus de mérite à battre ces gens-là, parce que
s'ils sont imbattables, il y aura pas de mérite. Hein.
Oui, ouais. Mais de là à être imbattable, je sais pas. Dans beaucoup de sports quand même, il y a toujours ce côté un peu de se confronter au meilleur. Et battre des gens contre qui on n'était pas favori, c'est un peu toujours dans beaucoup de sports, notamment dans les sports collectifs ou même en individuel, en tennis. Je pense que Nadal a plus de moyens technologiques pour son entraînement et sa récupération que quelqu'un qui sera centième à l'ATP. Mais néanmoins, si le centième à l'ATP arrive à le battre, c'est un exploit et c'est ça aussi qui fait ce côté un peu... Enfin, je sais pas.
Bah après, je pense que oui, si tu arrives à le battre, là, tu seras... Enfin, t'auras un mérite mais énorme. Mais ça commence pas à devenir impossible à battre ces champions qui sont surentraînés, qui ont des équipes, parce que aujourd'hui, on peut plus parler d'une performance individuelle. On a quoi derrière ? On a des kinésithérapeutes, on a des coachs, on a je sais pas combien de sélectionneurs, on a des équipes qui sont là pour tout ce qui est diététique. Enfin, il y a tellement de choses derrière, et maintenant on a même plein de scientifiques qui analysent, etc. Avec cette course à l'innovation où vraiment on va chercher toujours les technologies pour aller encore plus loin, etc. Enfin, il me semble que c'est quoi ? C'est les chaussures pour le marathon, c'est ça, qui ont été inventées ? Qui permettent de grappiller, mais plusieurs minutes, c'est ça, il me semble.
Bah, ça te permet en fait de rebondir plus loin et de faire des plus grandes foulées.
Et de reprendre ta force.
Ouais, de faire des plus grandes foulées.
Bah voilà, ça c'est dingue et je pense que ce sera, enfin, au bout d'un moment, quand tu auras trop de technologie, tous ces records-là seront plus battables en fait.
C'est la question à savoir qui sera le plus riche en fait.
Exactement. Et ça devient triste parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que pour faire un sport, faut énormément de moyens, faut forcément être dans une grosse équipe. Et c'est pas forcément les valeurs qu'on partage.
Et du coup, les meilleurs partage. Restent les meilleurs.
Exactement, et c'est pas forcément les valeurs qu'on partage quand on commence un sport.
Ouais, c'est sûr, mais après, on pourrait aussi se dire que le sport peut évoluer dans un sens où on va dire, par exemple, dans le football, on va récompenser aussi la meilleure équipe de soigneurs, des choses comme ça. Enfin, ça existe dans les sports mécaniques, donc pourquoi pas dans d'autres.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui.
Parce qu'en Formule 1, on récompense le meilleur pilote, bien évidemment, mais on récompense aussi les meilleurs constructeurs. Et du coup, on pourrait faire ça dans plusieurs sports. Et ce serait des distinctions peut-être qui auraient un impact. Après, c'est sûr que là, ça se projette un peu loin, mais...
C'est vrai.
Alors du coup, vous écoutez aussi toujours la radio Graphite sur le 94.9 FM ou sur graphite.net.
Mais... Du coup, moi, j'ai aussi une petite question. C'était par rapport à toute cette dénaturation face aux gains. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, face à tout cet argent qui est généré par le sport, est-ce qu'on reste toujours sur le même sport qu'avant, où on a vraiment une évolution, on ne voit plus les choses pareilles ? Enfin, je ne sais pas, c'est quoi votre avis là-dessus ?
Moi, je pense qu'on en vient à faire... Tous les gens derrière, après pas forcément l'athlète en lui-même, mais tous les gens qui sont derrière l'athlète, comme les sponsors, les coachs, les clubs, ils en viennent à faire un maximum de revenus. Donc, c'est-à-dire, du coup, améliorer les performances de l'athlète pour pouvoir gagner la compétition, gagner le match ou quoi. Après, du coup, avoir des sponsors derrière, que l'athlète soit le favori et tout ça. Et on en revient en fait à question de l'argent encore. Qui pourra faire le maximum d'argent ? Pour qui savoir ? Qui sera le plus riche et qui pourra encore faire beaucoup plus d'argent après ?
Parce que j'ai quand même un petit chiffre très sympathique à vous partager. C'est qu'au JO de 2016, la moitié des sportifs français vivaient sous le seuil de pauvreté. Et sur ces 450 athlètes qui se sont rendus, qui ont eu la chance de se rendre à Rio, 225 d'entre eux vivaient avec moins de 500 euros par mois.
Ça, c'est...
C'est un chiffre, je pense, qui peut faire énormément réfléchir. Mmh. Vu tout ce que le sport peut générer aujourd'hui comme gain, surtout que, arriver au JO, c'est pas non plus n'importe quoi, quoi. Enfin, c'est...
Mmh. Oui, non, clairement.
Donc.
Ouais, après, pour moi, il y a quand même ce côté de se dire où va cet argent du coup ? C'est ça la question. Où va l'argent qui est généré ? Parce que, c'est vrai que ça peut paraître un peu fou de se dire que on peut avoir des technologies qui valent des milliards et à côté avoir des sportifs qui sont rémunérés aussi peu. Et ça semble très inégalitaire, mais...
Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont rémunérés aussi peu, en fait ? Pourquoi il y en a moitié des athlètes qui vivent avec moins de 500 euros par mois ? Je trouve pas ça très...
François a peut-être un avis sur la question.
Avec la surexposition.
Avec le foot, peut-être.
Pourquoi les footballeurs sont-ils aussi riches ? Tu peux nous faire un lien,
là ? Oui, non, mais c'est sûr qu'au foot, les gains sont pas les mêmes. Mais après, encore une fois, au foot, c'est un peu spécial dans le sens où c'est un sport qui génère énormément d'argent également.
Pourquoi ?
Cet argent, il est généré justement par le nombre de matchs déjà qui sont retransmis à la télévision et tout ça. Mais c'est critiquable, c'est sûr, mais l'argent, ils ne le volent pas, l'argent. Enfin, je veux dire, l'argent est tout de même généré par leur image.
Les supporters, enfin, c'est l'exposition médiatique, en
fait. Ouais, c'est sûr.
Et pourquoi cette surexposition médiatique pour le foot, alors ? Pourquoi pas un autre sport ?
Je pense que c'est histoire de culture.
Ouais, je pense que c'est, pour moi, c'est culturel. En France, on a le foot et d'autres sports. Il n'y a pas non plus que le foot où les sportifs sont bien payés. Mais il y a dans d'autres pays, je pense à l'Inde, au niveau du cricket, je pense au niveau du rugby, certainement en Nouvelle-Zélande. Hein, je n'ai pas d'informations sur leur salaire. Mais,
le football américain aux États-Unis.
Ouais, le football américain aux États-Unis. Je veux dire, on avait parlé du Super Bowl à un moment.
Du Super Bowl, oui. Parce que du coup, le revenu des footballeurs, ou alors bah, là, du coup, des footballeurs américains aux États-Unis, vient du fait que le Super Bowl, par exemple, donc, qui est
un des plus gros événements.
L'événement sportif le plus regardé aux États-Unis, et que du coup, les pubs pendant la mi-temps du Super Bowl sont les pubs qui coûtent mais le plus cher. Hein. Vraiment, c'est incroyable comment 5 secondes de pub Coca-Cola, ça coûte. Et tout ça parce qu'il y a des millions de gens qui regardent ça. Donc on en revient du coup à c'est une surexposition médiatique, soit, mais parce qu'il y a tout cet amas d'anticipation autour de l'événement et qu'il y a autant de supporters pour un tel sport que les athlètes peuvent être rémunérés aussi bien.
Ouais, mais on peut se poser la question de d'où viennent tous ces supporters. Parce que est-ce qu'on pourrait pas avoir l'idée de se dire, bah, si ça avait pas été le foot, est-ce que ça aurait pu être autre chose, par exemple ?
Je pense que ça aurait pu être autre chose.
Ce cas-là, il faudrait mieux faire découvrir d'autres sports que le foot, non ?
Mais parce que le foot, ça vient de la simplicité du jeu. Tu as besoin de tes amis et d'une balle. Et encore même pas parfois d'une balle. Tu peux jouer avec une bouteille.
C'est vrai, on peut jouer avec tout. Donc
on peut jouer avec tout. C'est la simplicité, en fait. C'est juste, tu arrives et tu peux t'amuser avec tes amis. Alors que, je sais pas, le tennis, l'équitation, l'aviron. Il te faut un cheval, il te faut un bateau.
Bah, l'ultimate, alors. Oui. L'ultimate, tu pourrais dire, tu pourrais jouer avec n'importe quoi et pourtant, tu vois pas des matchs d'ultimate partout.
Oui, mais ça, après, c'est... Enfin, dans l'ultimate, c'est quand même assez récent, tout d'abord. Donc, forcément, je pense pas qu'on jouait à l'ultimate. Il n'y a pas un championnat de France d'ultimate en 1910. Alors que... Enfin, ça a été sûrement inventé tard. Hein. J'ai aucune notion d'ultimate, mais... Alors que le foot, c'est quand même... Ça existe depuis un certain temps, maintenant. Mais moi, je voudrais quand même revenir au salaire. Et pour ceux qui étaient à Rio et qui n'ont pas d'argent, moi, je trouve ça un peu choquant parce que c'est quand même les athlètes olympiques. Mais en fait, je ne comprends pas qu'on puisse mettre autant dans des technologies qui, on l'a dit, dénaturent un petit peu le sport et que pour autant, les sportifs ne soient pas rémunérés à cette hauteur-là. Parce que les footballeurs, oui, sont beaucoup rémunérés, mais on l'a dit, ils subissent quand même beaucoup via les technologies. Eux s'en plaignent du rythme des matchs, de toutes ces choses-là qui leur imposent d'être...
Je pense que c'est pareil dans tous les sports, actuellement. Oui, voilà.
Et du coup, bah, c'est un réel problème, la rémunération des athlètes, alors qu'on privilégie une technologie d'entraînement, de récupération, etc., qui coûte bien plus cher, à mon avis, que ces salaires-là.
C'est vrai. Mais après, je pense que de toute façon, tout l'argent qui est généré ne reviendra pas de base aux athlètes. Il reviendra peut-être aux fédérations, peut-être aux... Enfin, je ne sais pas à qui va revenir.
À tout ce qui a coûté cher avant, en fait.
Voilà, c'est ça. Et puis même, on peut imaginer que ces technologies, certes, coûtent extrêmement cher. Mais du coup, l'idée principale, ce ne serait pas plutôt de privilégier d'abord les revenus adéquats, en fait, de ces athlètes avant...
Pour le bien-être du sportif.
Exactement. Ouais. Et se dire que, en fait, le truc, c'est que comme il n'y a pas de législation qui sont mises en place, sachant que pour quelqu'un qui s'occupe d'une équipe, l'objectif, c'est d'avoir les meilleurs résultats possibles. C'est pas qu'il s'en fiche un peu de ses athlètes, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes qui sont capables d'atteindre les mêmes performances. Ce qui va changer, c'est juste les technologies qu'on va leur appliquer. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les records.
Ouais.
Et je pense que, du coup, ça peut être très difficile à vivre et c'est... Je ne pense pas que ce soit prêt de changer. Enfin, après, peut-être que je me trompe, hein, mais...
Ouais, donc toi, tu serais quand même beaucoup plus pour des législations sur ces technologies-là.
Ah, tout à fait, parce que je trouve que ça... D'un côté, ça dénature, de l'autre, ça favorise toujours les plus grosses équipes, ceux qui ont le plus de moyens, alors que je pense que, justement, ce qui est beau avec le sport, c'est que tout le monde peut le pratiquer. Certes, il y a des sports, comme tu as dit, l'équitation, tout le monde ne peut pas le pratiquer, mais et par exemple, le foot, l'ultimate et tout ça... je pense que de base, quand on y va, c'est pour partager un moment, c'est pour apprendre aussi des choses que le sport nous apprend. Et ensuite, au fur et à mesure, bon, bah, quand on devient professionnel, d'accord, ça devient ton boulot, c'est ton gagne-pain un peu, mais franchement, je trouve ça un petit peu aberrant ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde sportif.
Et ouais, un peu ce dopage technologique, en fait.
Exactement. En fait, on n'a plus le dopage, peut-être, enfin, si, on l'a encore, mais un peu moins, parce que c'est très... Enfin, il y a des législations,
ouais,
en fait.
C'est très réglementé, ouais, c'est ça.
Et je pense que ça date. Le dopage, ça date, alors que les technologies, c'est très récent.
Et bien justement, on a vu le problème du dopage. Alors pourquoi pas mettre des législations maintenant ?
Parce que je pense qu'on n'a pas assez de recul et que...
Les limites ne sont pas encore fixées, en fait.
Ouais.
C'est ça. Pour le dopage, à un moment donné, on a été capable de se dire, bon, là, ça, c'est du dopage. Prendre cette substance chimique, c'est du dopage. Alors que pour la technologie, étant donné que le sport évolue tout de même en lien avec la technologie, et on n'est pas capable, pour l'instant... On n'est pas à une phase terminale, en fait, de ce niveau-là. Et même encore aujourd'hui, avec du dopage, on arrive à encore un petit peu, je dirais, contourner les limites. Et donc, pour ce qui est de la technologie, étant donné que c'est très récent, c'est vraiment compliqué de dire, bah voilà, quand est-ce qu'on va considérer que ça, c'est du dopage technologique et que ça, ça n'en est pas ? C'est quand même assez dur.
Je suis d'accord avec ça, mais bon, vu tout ce qu'on investit dans les technologies... Je pense qu'on peut aussi, peut-être...
Il y a un apport, en fait, je pense, derrière. Les technologies, ça coûte cher, mais ça permet, en fait, de
c'est d'ouvrir... un retour sur l'investissement, en
ouais,
fait.
Oui, c'est un retour sur l'investissement. Ça permet d'ouvrir la porte à de nouvelles technologies. Et il y a ce sort de partenariat, je pense, entre les équipes de sport et les entreprises technologiques qui apportent. Alors que, du coup, le dopage, ça bénéficie à qui, en fait, derrière ? À part...
Le sportif, ouais, c'est vrai que...
Ouais, le sportif, mais en fait, là, il y a une entente mutuelle, je pense, entre les équipes... Enfin, ouais, entre les équipes sportives et les boîtes comme McLeod ou Catapult, derrière. Et le fait de les limiter, en fait, ça va... Ben, tu vas limiter cette entente et tu vas perdre sur ça. Donc, il y a... Enfin, tu vois, il y a un...
Ouais, il y a un équilibre, quand même, de... C'est un peu... voilà,
c'est donnant-donnant. En fait.
Ouais, c'est ça. Donnant, l'entreprise donnant. Va dire qu'est-ce qu'on peut modifier pour que ce soit mieux, et le sportif va s'améliorer grâce à ces équipements-là.
Mm-hmm. Ouais.
Du coup, ça reste... même si on a parlé, le rapport au corps a changé, etc. Mais est-ce que c'est bien ou mal ? Je pense que c'est ça la vraie question. Parce que,
Ça nous invente des nouveaux problèmes, en fait.
Ouais, c'est ça.
Parce que, oui,
ça nous donne des nouvelles solutions, mais ça nous invente des nouveaux problèmes.
C'est le solutionnisme technologique.
Le solutionnisme technologique, c'est ce que j'allais dire.
Renvoyé avec notre première émission. Mais non, franchement, je trouve que tous ces problèmes que ça nous apporte, je ne sais pas vraiment si ça peut... Enfin, si on peut vraiment considérer ça comme... Comme un véritable apport pour certaines, oui, hein, bien évidemment, comme on l'a vu, mais bon, là...
Non, ouais, mais je pense qu'on voit... Enfin, avec les technologies, on voit un peu le mal partout. On se dit, ouais, mais là, tu pourrais faire mieux. Alors que, est-ce que ça change quelque chose, en fait ?
C'est-à-dire, là, tu pourrais faire mieux ?
Par exemple, un athlète avec les chiffres qu'il obtient à la fin d'un entraînement, par exemple, l'entraîneur derrière va lui dire, ouais, mais là, par exemple, t'as pas couru assez vite. Là, t'aurais pu faire mieux. La semaine dernière, t'avais couru plus vite. Et du coup, là, en fait, ça crée des nouveaux problèmes. Un athlète, c'est quand même un humain avant tout. C'est pas un robot.
En fait, c'est considéré comme une machine.
Ouais.
En fait, c'est ça qui me choque, c'est que aujourd'hui, comme tout presque, enfin, je veux pas dire que tous les athlètes peuvent atteindre le même niveau, c'est faux. Mais il y a
prédisposition.
Quand même, voilà, il y a quand même quelques athlètes qui atteignent à peu près tous les mêmes résultats, que ce soit en athlétisme, enfin, dans n'importe quel sport. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que on s'attache plus. Enfin, une équipe ne s'attachera pas forcément à un seul athlète, dans le sens où, comme il y en a d'autres qui peuvent faire la même chose, et que un peu la seule chose qui change, c'est le fait qu'on va appliquer ou non des technologies dans son entraînement.
Ça décourage les autres.
C'est pas que ça décourage, c'est juste que je pense que c'est horrible de se dire, en tant que sportif, je vais au-delà de ce que je peux faire, je vais toujours chercher à me surpasser. Mais en fait, il pourrait très bien faire ça avec le voisin, tu vois. Et je pense que ça peut être très compliqué à vivre, et de se dire que en fait, l'athlète n'est presque... Enfin, aujourd'hui, l'athlète est presque même plus indispensable à ses équipes, en fait. Enfin, dites-moi si je me trompe.
Je pense que c'est peut-être un petit peu...
peut-être.
Caricatural.
Peut-être.
Il y a quand même,
c'est apocalyptique.
Toujours. Ouais.
Il y a quand même, je pense, des sportifs qui, aujourd'hui, sont
très... Ah, je parle
très
pas de tous les sports.
Ah ouais, mais il y a quand même beaucoup de sports encore aujourd'hui où il y a des performances incroyables. Ouais, c'est sûr. Mais je suis un peu d'accord avec toi, c'est ce côté un peu des technologies qui vont mettre un peu l'athlète au second plan, ça peut être un peu, pour moi, ouais, ça peut être un peu dangereux.
Mais faut je pense faire que... attention à pas complètement exclure ouais. l'athlète de l'équation.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'en vrai, on va faire des matchs de robots tant qu'on y est, parce que si on est que dans...
Ça existe, hein. Ça existe.
Ouais, mais alors du coup, ça, est-ce que... Enfin, c'est... Il y a plus de... Enfin, là, enfin, dans le domaine... On est dans le sport avec des humains.
Ouais, non, mais je pense qu'on serait surpris, par contre, de savoir le nombre de gens qu'il y a derrière ces robots. Hein. Dans des ouais. épreuves entre robots, je pense qu'on serait choqués de savoir le nombre.
Ouais, ouais, mais du coup, alors, enfin, dans le... Enfin, faut faire attention, parce que de garder, en fait, ce sport entre humains, tu vois.
Ouais.
Parce qu'au final, si on parle que de la soif du gain, de dire, ouais, on peut toujours se surpasser, enfin, on est face à des humains, on n'est pas face à des robots. Et si on est toujours dans cette mentalité de pousser le truc toujours plus loin, bah autant faire des compétitions de robots, quoi.
C'est vrai. Mais après, je pense que t'as quand même là... Enfin, quand t'as un sportif, tu vas le suivre, etc. Je pense que... C'est vraiment, ça peut te faire vibrer de suivre un sportif tout au long de sa carrière et tout, et de voir comment il évolue aussi. Je pense que... Ouais.
Après, je pense que c'est peut-être aussi une question de peur, un petit peu. Bah, on a peur des technologies, peut-être.
Bah, on a vu ce que ça a apporté sur certaines choses, tu vois. C'est pas toujours positif à 100%.
Ouais, c'est pour ça. Je pense que, au niveau du sport, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas perdre ce côté de mérite et
authentique.
Authentique, ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait un peu peur, c'est sûr.
Mais je pense qu'en temps, ça se braquait.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que les technologies pourraient un petit peu expliquer? Enfin, je sais pas comment dire, mais est-ce qu'on pourrait dire oui, ok, allez-y, mettez plein de technologies et tout, si ça permet des performances derrière, si ça permet de battre des records, etc. Est-ce que vous seriez pour, enfin, juste vraiment vous personnellement?
Bah, personnellement, je sais pas, parce que, par exemple, au niveau du, je reviens au football, hein, excusez-moi vraiment, hein, vous allez me détester, mais quand on pense à l'époque de certains joueurs comme Michel Platini ou Pelé. Il faut savoir que Michel Platini, qui jouait par exemple dans les années 70-80, les poteaux étaient carrés, les ballons étaient beaucoup plus lourds, les chaussures étaient quasiment... elles étaient très désagréables. Aujourd'hui, les footballeurs jouent dans un certain confort et le jeu n'est plus le même, c'est vrai, grâce à la technologie ou à cause de la technologie. Mais du coup, on a tendance parfois à comparer les époques et à dire oui, qui était meilleur entre un tel et un tel, en France, typiquement entre Michel Platini, par exemple, et Zinedine Zidane.
Ça se compare et, pas vraiment.
Bah, c'est ça, en fait, c'est incomparable. On voit que le sport évolue avec en fur et à mesure de l'époque et du coup, on n'est plus vraiment capable de dire tel athlète était meilleur que lui. Parce qu'en fait, il a tellement de confort aujourd'hui que n'avait pas l'athlète à l'époque que c'est très difficile de dire ça. Un peu pour revenir aux 100 mètres, même si les records sont battus maintenant, est-ce qu'on dira pas « Ouais, mais en même temps, il a tellement de confort que... »
Ouais, il a des chaussures qui
rebondissent. Ouais,
en fait, d'année en année, on ne battrait pas des records, c'est juste que...
Ouais, la technologie, en fait.
On améliore la technologie.
Bah, c'est un peu ce qui menace maintenant, alors qu'à une époque, c'était quand même... Il y avait ce côté de quand on battait quelqu'un, un record... On se disait, ah ouais, c'est vraiment le meilleur athlète. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à dire...
Il ne le doit qu'à lui-même.
Ouais, ouais, c'est ça. Alors que,
ouais, mais le 100 mètres, quand même, c'est dingue. Toutes les technologies qu'on a et on n'est toujours pas capable de les battre, c'est quand même...
Ouais. Mais c'est ce que j'avais dit. Enfin, un humain, c'est un humain. Il ne peut pas... Enfin, il arrive un moment où...
On vient au plafond, en fait.
Ouais, il arrive un moment où... Enfin...
Tu stagnes.
Ouais, tu ne peux pas aller trop, trop loin non plus. Bon. Alors, du coup... vous écoutez toujours Radio Graphite sur le 94.9 FM ou sur graphite.net. Alors du coup, notre émission se clôture déjà et nous espérons que vous avez apprécié nous écouter et que ce thème vous a plu surtout. Nous aimerions remercier notre professeur Clément Mabi de l'UV SI1 Sciences et Débats Publics, Édouard Boutet, notre responsable TD, pour nous permettre de réaliser un tel projet, toute l'équipe Graphite qui nous a gentiment accueillis dans le studio et aidés pour prendre les commandes. Pour finir, nous remercions les musiciens Félix au saxophone et Elena à la clarinette pour le jingle. Nous vous souhaitons une agréable journée et nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines, à la même heure, pour un podcast sur l'arrivée des innovations dans le domaine des transports.
Bonne journée à tous.